La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes au bon endroit pour découvrir des patronnes et des patrons qui font face à la crise, des initiatives locales qui montrent que vous êtes les acteurs de ce changement. Ici, c'est simple, on trouve des solutions et elles sont françaises. Ensemble, on en parle avec vous, Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. Allez, on passe au fromage tout de suite. On a eu envie de se faire plaisir avec la fermeture des restaurants et le marché du fromage se porte bien. On en parle jusqu'à 14h avec l'un des plus grands fromagers français, Pascal Bayvert.
À la une, la tendance est aussi aux fromages végétaux. Oui, pour les intolérants au lait, pour les véganes et puis parce que c'est une tendance qui monte. Un marché qui fait des heureux comme les nouveaux affineurs et on les découvre d'ici quelques minutes.
En tout cas, que le fromage soit végétal ou pas, il se déguste en raclette et parmi les marques qui fleurent bon ces moments de convivialité, il y a Tefal. Tefal, ce sera notre saga du jour dans La France Bouge.
Chaque jour dans La France Bouge, nous découvrons le projet d'une entrepreneur ou d'un entrepreneur qui se lance. Le pitch du jour, Polskin, des produits cosmétiques pour hommes. Les détails de ce projet à 13h45.
Et puis demain, un emploi. Chaque vendredi, La France Bouge soutient et accompagne les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Aujourd'hui, on a 200 postes pour vous. Où ça? Eh bien, réponse aux alentours de 13h50.
Eh bien oui, c'est ça, La France Bouge. Restez avec nous, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France Bouge sur Europe 1.
Alors, je ne sais pas, Elisabeth, si on va réussir à faire l'émission aujourd'hui, puisque là, que ce soit notre premier invité, Pascal Bayvert, le fondateur des Fromagerie Bayvert, ou notre deuxième invité, Nour Albarali, le patron des nouveaux affineurs. Ils sont arrivés avec plein de produits qui sont là devant nous.
Il y a un buffet de fromage, là, en direct, dans le studio Lagardère. Venez, hein, si vous voulez venir vous servir. Il y en a plein, c'est absolument magnifique.
En tout cas, tout cela montre à quel point ce secteur est en train de bouger et on va en parler jusqu'à 14h.
Bonjour Pascal Bayvert.
Bonjour.
On est ravis de vous avoir en direct dans La France Bouge.
Merci. Merci de m'inviter à cette émission sympathique. Hein, et vous m'avez l'air en plus très sympathique tous les deux, donc je pense que ça devrait bien se passer.
On va passer un très bon moment. Vous êtes le fondateur des fromageries Bayvert, hein, on peut le dire. Hein, vous êtes aujourd'hui l'un des plus grands fromagers français. Vous êtes producteur, affineur, dénicheur, détaillant, un modèle totalement unique. Et vous êtes reconnu pour dénicher partout en France des fromages d'exception. Tout a commencé dans les années 80 à Machecoul, en Loire-Atlantique. C'est toujours là-bas que se trouve le siège de votre entreprise Bayvert. Rien qu'en France, vous avez une vingtaine de boutiques. Vous avez aussi des camions itinérants sur de nombreux marchés français. Présent aussi à l'international. Bref, vous êtes partout, Pascal Bayvert. Alors, avec cette crise, les restaurants sont fermés, vont bientôt rouvrir. On a eu envie de se faire plaisir à la maison, là, depuis un peu plus d'un an. Est-ce que vous, Pascal Bayvert, vous en avez profité?
Alors, il est vrai que le secteur du commerce de détail, généralement, a un peu profité du confinement, hein, on peut le dire, puisque les gens se sont retrouvés, ou les consommateurs se sont retrouvés plutôt à proximité de nos commerces. Hein, et on peut dire que la vente directe s'est plutôt bien comportée durant cette période de confinement. Mais moi, une autre partie de l'activité consiste aussi à servir nos amis restaurateurs et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour eux.
Mais ça va reprendre, de toute façon.
Et voilà, et j'espère une reprise
justement,
réussie.
Justement, vous voyez là, déjà, ils passent des commandes. Alors, certes,
on commence à
voir
déjà les prémices des commandes, forcément.
Puisque oui, on va pas nous sortir ce qu'il y avait il y a 3 mois. Là, donc
les réouvertures, c'est pour une petite dizaine de jours, hein, maintenant, dans 4-5 jours. Hein, donc, on commence à avoir quelques prémices. Non, c'est normal, ils commencent à s'organiser pour fournir leurs ouvertures et régaler leurs clients, on va dire. Donc, dans la partie régale, je pense que le fromage a toujours sa place. Et il n'y a pas que le fromage, parce qu'il y a aussi tous les ingrédients qui servent à cuisiner. Moi, je suis fabricant de crème fraîche, je suis fabricant de beurre. Et tous ces produits sont des produits de base pour nos amis cuisiniers.
Qu'est-ce qui a particulièrement marché quand on a eu là envie de se faire plaisir pendant ces confinements à répétition?
Je pense que le fromage est un produit de convivialité, un produit qui peut se snacker assez facilement, qui peut se partager très facilement. Donc, on va dire que les fromages sont arrivés sur la table des Français, sans doute pour cette raison-là principale. Hein. Et puis, il y a une telle diversité de goûts, de couleurs, de saveurs, d'odeurs dans le fromage que finalement, On peut faire tout un repas autour du fromage, hein, y a aucun souci. Et puis, autour du fromage, on peut partager un bon verre de vin, et puis on peut déguster un très bon pain, et puis tout ça fait que...
Mais y a-t-il un produit qui a émergé là, pendant cette période, comme vous le demandez, Emmanuel ?
Ouais, il y a le produit phare qui est vrai, a super bien fonctionné durant cette période, c'est la raclette. Je vous en ai ramené un petit morceau, parce que je suis fabricant de raclette au travers d'un site de production que j'ai à Montmélian, à la sortie de Chambéry. Hein. Donc c'est vrai que la raclette, alors du coup on est un petit peu moins dans le stacking, on est dans le fromage chaud, mais c'est quelque chose qui a fort, fort bien fonctionné effectivement au moment du confinement. Et puis la raclette, c'est aussi quelque chose qui se partage, comme je l'ai dit, puis on y ajoute un petit peu de charcuterie, et puis un petit vin blanc de Seyssel, et puis vous passez un super moment encore autour d'une raclette.
Vous le disiez, hein, là ça sort ce fromage d'une de vos usines de production de fromage, parce que c'est l'une de vos particularités, vous avez 6 usines pour fabriquer, 7 usines pour fabriquer notamment un paquet d'AOP encore.
Voilà, je suis fabricant de raclette, mais je suis fabricant d'un produit AOP qui est assez extraordinaire. Nous sommes très peu maintenant, plus que 8 personnes à fabriquer.
Oui, vous êtes 8 fabricants à fabriquer des camemberts.
8 fabricants et 2 ou 3 fermiers qui fabriquent le camembert AOP, hein, le véritable camembert de Normandie, sur lequel on a beaucoup pu discuter ces derniers mois.
C'est près de Granville, hein, je crois.
Oui, c'est à Gavray, plus précisément, près de Granville, donc un très beau produit. Et puis toujours dans le secteur des AOP, je suis fabricant de Chabichou du Poitou, hein, qui est un très bel AOP qu'on trouve dans les Deux-Sèvres. Un futur AOP, je l'ai près de moi et je ne veux pas manquer d'en parler, c'est le Motet sur Feuille. Voilà, un très très beau produit, hein, un peu connu, mais qui va se faire connaître de mieux en mieux grâce au support de l'AOP, nous l'espérons. Et puis je suis fabricant d'un petit fromage de chèvre AOP qu'on trouve en Ardèche, qui s'appelle le Picodon d'Ardèche, ou le Picodon de la Drôme, puisqu'il a ces deux appellations. Mais tout ça, c'est voisin, et c'est un très beau petit fromage de chèvre qui, lui, est devenu...
Et vous avez vocation, comme ça, à continuer de vous agrandir, à acheter des usines ou à en créer sur ces zones où on peut produire ces AOP ?
Vocation, moi j'ai déjà fait une grande partie de mon parcours, donc je vais bientôt obligé de m'arrêter.
Pour vos enfants, parce que je crois que votre fils est directeur
voilà,
général
j'ai des enfants, maintenant. J'ai des enfants qui s'intéressent à la suite, donc effectivement, nous pouvoir intégrer ces sites de production, je trouve que c'est un vrai sens vis-à-vis de notre métier, puisque du coup on s'inscrit de plus en plus dans les circuits courts, hein, on parle beaucoup de ces circuits courts, et nous, en étant fabricants, on est vraiment dans le côté légitime des circuits courts, du producteur, on va dire, au consommateur.
Là, ce que vous venez de nous montrer prouve bien que vous êtes aussi des dénicheurs, hein, c'est-à-dire que vous allez vous chercher partout en France des fromages que vous vendez ensuite. Là, vous nous avez montré des fromages que vous fabriquez,
voilà.
Mais vous êtes aussi dénicheur.
Dénicheur, c'est un mot que j'aime bien parce que c'est effectivement
c'est comme
ce
ça que
métier.
Vous l'appelez, oui, d'ailleurs.
Voilà, c'est un mot que j'aime bien, parce qu'on essaye de trouver l'excellence un petit peu partout, et c'est vrai que c'est... un vrai plaisir de trouver un Bastelli Catch de chez mon ami Jean-François Brunelli à Portich, ou une belle tome de brebis de chez du côté de Figari, de chez Jean-José Marcellesi, ou un super master de mon ami Gérard-Claude Pierre au Col du Bonhomme.
C'est votre force. Vous avez 80 fromages qui ne sont vendus que dans les fromageries Belver.
Alors on a des exclusivités effectivement qui sont vendues que dans nos fromageries, parce que on a un réseau assez conséquent, on peut se permettre avec certains producteurs de leur distribuer l'intégralité de leur fabrication ou de leur production.
Pascal Belver, vous nous mettez l'eau à la bouche. Hein. Franchement,
c'est pas facile cette émission.
C'est compliqué, mais bon, allez, vous êtes le fondateur des fromageries Belver. On va continuer à parler de toutes vos fabrications, de tout ce que vous avez déniché pour faire de vos fromageries des fromageries les plus importantes de France. Vous restez avec nous si vous le voulez bien.
Et il est 13h18.
Ils ressemblent à des fromages, ils ont le goût du fromage, mais ce n'est pas du fromage.
Oui, mais ils sont très très jolis, ça s'appelle le fromage. Alors vous dites, qu'est-ce qu'il raconte celui-ci ? Ben, c'est du fromage sans lait, ce sont les nouveaux affineurs, et on les découvre d'ici quelques minutes. Ah, on a presque raté le retour, on est en train de manger avec Elisabeth.
Vous étiez en train de manger.
Oui, c'est vrai, je vous intègre alors que j'étais le seul, une fois de plus, à gloutonner. Mais parce qu'on a de quoi manger aujourd'hui avec tous ces beaux produits de fromage, des fromages, hein, qui ont profité d'une certaine manière de la crise parce qu'on a eu envie de se faire plaisir à la maison. Et on en parle depuis le début de cette émission avec Pascal Belveille, Pascal Belveille, qui est le fondateur des fromageries Belveille.
Et nous sommes de plus en plus nombreux à diversifier notre alimentation, à se tourner vers des alternatives végétal. Et cela est valable aussi dans le monde du fromage. Face à cette demande, il existe des pépites comme vous. Bonjour Nour Akbar Ali.
Bonjour Elisabeth, merci de me recevoir.
Merci à vous. Vous êtes le PDG des nouveaux affineurs. Les nouveaux affineurs, ce sont des fromages végétaux. Je tiens à le préciser à nos auditeurs, Emmanuel Dutheil vient d'en goûter.
Oui, et c'était
donc
très bon.
Un fromage sans lait.
Ouais,
mais quel goût, il ressemblait à quoi ?
Mais il ressemblait à un fromage, c'est ça qui est assez étonnant.
C'est assez étonnant. Vous avez 35 ans, Nour, et depuis 2018, vous vendez donc ces produits végétaux fermentés, hein, ce qu'on appelle des fromages véganes, mais il ne faut pas utiliser cette appellation de fromage. Votre envie de départ, c'est du fromage végétal, mais qui a du goût, qui est bon. Comment avez-vous réalisé cette prouesse ?
Exactement, on a la volonté depuis le début de faire des produits végétaux qui soient bons. C'est aussi un écueil. Aujourd'hui, il y a pas mal d'alternatives qui existent, pas forcément au fromage, également à la viande ou autre, mais tous les produits qui sont dispo ne sont pas forcément bons. Pour y arriver, on s'est entouré dès le départ de professionnels de la fermentation, de la fromagerie, de chefs également pour travailler sur le goût. Et l'objectif, c'était d'utiliser la bonne compréhension technique de la fabrication pour arriver à des produits qui soient bons, qui aient une bonne texture, qui soient intéressant à tous les aspects sensoriels.
Donc vous êtes parti de la technique, de la méthode, pour ensuite arriver au goût et donc à ce que ces formes de fromage. C'est d'abord la technique qui est importante.
Non, c'est ce qui est important, c'est de se faire plaisir, d'avoir des produits qui soient bons, qu'on prenne du plaisir à les manger, seul, pourquoi pas avec du fromage également. Et pour y arriver, c'est un moyen en tout cas, c'est une bonne compréhension technique de la fabrication, de la production de ces produits-là.
Mais pourquoi vous avez eu envie de vous lancer sur du fromage, même s'il ne faut pas utiliser le terme, mais du fromage végétal ? Parce qu'on le comprend pour la viande, parce qu'il y aura un moment, un manque de production, etc., etc. Mais pourquoi le fromage ?
Alors, le point de départ par rapport à la volonté de réduire la consommation de viande ou la consommation de produits laitiers, il est un peu le même. C'est-à-dire, on est sur des filières qui sont souvent communes, l'élevage bovin, qui font appel aux mêmes ressources et qui ont malgré leur forte adoption dans un pays comme la France ou dans la culture européenne, un écueil aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a une forte émission de gaz à effet de serre, une forte consommation de ressources. Donc dans les deux cas, il y a un objectif qui est de réduire collectivement notre consommation. Pour aider les gens à réduire, il faut quand même proposer des produits qui soient bons, parce que si on doit passer par uniquement des produits qui soient pas agréables, un peu difficiles à manger, c'est forcément plus difficile de susciter l'adoption. Et donc l'objectif, c'était, en lien avec ces considérations environnementales, également sanitaires, éthiques, de proposer des alternatives qui soient meilleures pour aider les gens en fait, à plus facilement prendre plaisir à diversifier sans se priver.
Alors Emmanuel l'a goûté, il va nous dire que c'était très bon. Il y a quoi à l'intérieur de ces fromages, de ces fromages végétaux ? On y trouve quoi ? Vous avez mis quoi ? Parce que ça ressemble.
Ce que j'ai amené là, c'est donc nos deux gammes de produits qu'on appelle les frais végétaux et les affinés. Ils sont à base de soja bio et français et de noix de cajou qui sont bio, fair trade également. Et toute la maîtrise en fait de la fermentation fait qu'on arrive à transformer ces matières premières. Là où Pascal Bayvert va utiliser du lait à partir du caillé, il va faire fermenter ses produits pour en faire des fromages. Nous, on va prendre donc ces matières premières, soja, noix de cajou. On va également les faire fermenter.
Selon la même méthode ?
Avec en tout cas des méthodes similaires. On va sélectionner pas forcément les mêmes ferments, mais on va également donc sélectionner des bactéries, des levures, des moisissures pour avoir ces rendus avec des croûtes ou des produits plus frais, comme vous pouvez le voir sur le plateau.
Vous avez levé 2 millions d'euros début 2020, ce qui vous a permis l'ouverture de votre première unité de production en banlieue parisienne, un site pilote d'une grande taille, je crois assez unique en Europe. Quelle est votre ambition ? Vous voulez devenir le leader mondial du fromage végétal ? Du fromage ?
Alors, en tout cas, sur les bons produits, oui, on veut être leader, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont des produits très transformés, qui sont diffusés assez massivement, mais qui en général sont peu qualitatifs, à la fois en goût, mais également du point de vue nutritionnel. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est ce qui s'est passé depuis le début du projet, c'est de fédérer. La France, c'est un pays où il y a beaucoup de savoir-faire technique, artisanal, sur la fabrication fromagère. Depuis le début, je vous disais qu'on s'est entouré de professionnels, le chef également. C'est de continuer à faire ça et de proposer toujours des produits qui respectent ce qui est des charges et une qualité qui soit la meilleure possible.
Pascal Bayvert, vous êtes notre témoin du jour, fondateur des fromageries Bayvert. Vous les connaissez, les nouveaux affineurs. Comment vous, fromager, vous percevez ces nouveaux entrants dans cette économie, sur ce marché du fromage, parce qu'on reste sur le même marché. Comment vous les percevez ?
Bah nous, on les perçoit sans opposition. Je connais bien Nour, il n'y a pas de doute là-dessus, parce qu'on s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises. Et
pourquoi vous vous êtes rencontrés ?
Parce que
vous avez quelque chose à voir ?
Parce que Nour fait son travail quand il a envie de distribuer ses produits. Donc il est venu me contacter dans ce cadre-là. Et puis, pour ne pas vous le cacher, j'ai un de mes fils qui s'intéresse au végétal. Donc Nour connaît bien un de mes enfants. J'ai deux enfants. J'en ai un qui m'accompagne dans l'entreprise depuis une petite dizaine d'années. Et j'ai le cadet de mes enfants qui est arrivé depuis quelques mois dans l'entreprise.
Ce qui veut dire que vous pourriez vous aussi vous développer sur...
Et on s'intéresse au végétal, effectivement. On est parti plutôt sur la partie dessert, nous, pour commencer. Mais avec Nour, il y a peut-être des partenariats qui pourraient se lier au fil du temps. D'abord, il n'y a pas d'opposition. Je trouve d'ailleurs que ça ne sert à rien d'opposer les personnes, d'opposer les consommations, parce que je suis quelqu'un qui prône qu'il faut savoir manger de tout un petit peu et un petit peu de tout. Je ne suis pas beaucoup pour le clivage très, 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 très...
Mais si vous êtes intéressé d'aller sur ce marché, c'est que vous sentez qu'il y a une demande, y compris de la part de vos clients.
Je pense qu'il y a effectivement une vraie demande, et dans le côté épicurien du fromage, il faut être aussi épicurieux. Et donc je pense que les personnes vont explorer toutes ces choses-là. Le consommateur, il a aussi besoin des fois d'explorer, de changement, et je trouve que le végétal, c'est un très bon support qui ne s'oppose pas à ce que l'on fait déjà.
Qui peut être complémentaire par rapport à la demande actuelle. Nour Akbar Ali, donc vous êtes le fondateur des nouveaux affineurs. Quand on voit ce joli plateau de fromages végétaux, vous avez apporté du fromage, enfin du fromage à tartiner à base d'ail et fines herbes, une espèce de camembert, enfin qui ressemble, pardonnez-moi, au camembert, au chèvre. Mais ça va donner envie aux Américains, aux Asiatiques. Enfin, vous pouvez avoir une formidable expansion internationale.
Alors, ça donne envie à beaucoup de monde. Une précision, nous, on ne cherche pas forcément à imiter un fromage précis.
Enfin, ça ressemble.
On est plutôt dans une logique. Pascal Bayvert disait que c'est caractérisé par la diversité, donc de compléter ce qui existe déjà sans chercher forcément à imiter un produit en particulier. Mais oui, il y a une forte demande à l'international. Il n'y a pas forcément, dans ces pays-là, de savoir-faire comme on peut l'avoir ici pour développer ces produits. Et nous, l'ambition internationale, elle est forte. Là, on commence dès cette année.
Avec
qui ? Vous avez parlé de notre... usine pilote qui s'est montée, on l'a inaugurée il y a quelques semaines, donc c'est tout récent, qui va nous permettre d'augmenter en capacité de production et surtout de technicité dans la fabrication. On commence dès maintenant à se déployer en Europe, plus spécifiquement sur l'Allemagne pour commencer, mais sur d'autres pays
et
également.
Pour ceux qui se poseraient la question des prix, on est aux alentours de 10 euros pour un fromage affiné, c'est ça l'idée.
Oui, c'est ça, et à peu près 5 euros, un peu moins pour les frais.
Ça s'appelle les nouveaux affineurs. Ce sont des fromages végétaux. Merci Nour Akbar Ali d'être venu dans
Merci
la France Bouge nous les présenter.
Et Pascal Bayvert, le fondateur des fromages Bayvert. On vous garde avec nous. Vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1.
13h29 sur Europe 1. Il est l'un des trois repas préférés des Français. Ce repas apporte de la convivialité autour du fromage fondu. Vous avez deviné, Emmanuel.
Vous adorez ça, Elisabeth.
C'est vrai, j'adore
ça. C'est la raclette. On en parlera dans un instant avec l'une des marques les plus associées à ça, Tefal. Elle bouge et elle mange, il faut être très honnête.
C'est hyper bon.
À chaque fois qu'on s'arrête, on se lève avec Elisabeth pour déguster. Là, on vient de déguster le fameux camembert qui était délicieux de Pascal Bayvert.
Il a un petit goût salé à la fin, il est bon.
Qui est notre grand témoin. Je ne sais pas si on va finir l'émission. Heureusement qu'on ne boit pas avec Elisabeth, parce que je ne sais pas dans quel état on serait à la fin. Alors en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les Français viennent de plus en plus vers les fromageries. Il y a ne serait-ce qu'une vingtaine d'années, pousser la porte d'une fromagerie, ça faisait peur, ça coûtait cher. Encore aujourd'hui, ça coûte un petit peu cher. Comment vous expliquez malgré tout qu'on pousse beaucoup plus facilement la porte des fromageries et qu'on en voit se créer partout? Vous en êtes le meilleur exemple. En 20 ans, vous avez ouvert quasiment autant de boutiques à Paris, par exemple.
Oui, je pense que, vous l'avez dit, ça faisait un petit peu peur. Et un des objectifs qu'on s'était donné, c'est en termes de fromager distributeur, c'est de désacraliser un petit peu ce moment. Donc ce qu'il faut, c'est donner de la clarté dans la présentation des fromages. Parce que très souvent, les gens rentrent dans une fromagerie et ne connaissent pas forcément les produits qu'ils ont devant eux. Donc il faut déjà les rassurer par des noms qu'ils comprennent vite, qu'ils voient, qu'ils s'expliquent assez vite et qu'ils... finalement, qu'ils ne se sentent pas dévalorisés quand ils se disent « mettez-moi de ça, par exemple, ça, c'est pas bien ». Parce qu'il faut, il faut absolument donner aux clients, à nos consommateurs, à nos amis consommateurs, le vrai nom du fromage qu'on leur présente. Et donc, à partir de là, je pense que ça les libère. Et puis, effectivement, vous parliez du prix. Je pense qu'il faut savoir faire des prix qui soient abordables aussi. Enfin, tout ça, c'est un jeu de commerçants, hein. Il y a forcément des fromages qui sont très chers, on ne peut pas les donner, hein, c'est très clair. Mais il y a aussi des très bons fromages d'entrée de gamme qu'il faut savoir promouvoir, jouer sur les saisons.
Lesquels, par exemple, des fromages d'entrée de gamme? Pour ceux qui nous écoutent, qui ont un petit budget, quels sont les fromages d'entrée de gamme et bons en plus?
Quand vous commencez à vous intéresser, par exemple, à des tomes, des tomes de Savoie, mais même des bonnes tomes au lait cru, vous avez un fromage qui, généralement, va tourner autour de entre 10 et 15 euros le 10 et 15 euros le kilo, donc ça commence à devenir un fromage abordable. Et donc la raclette est un fromage quand même qui, puisqu'on, je sais qu'on va en parler, n'est pas un fromage excessivement cher. Naturellement, il y a des raclettes très très chères. Si on s'intéresse par exemple à toutes les raclettes de marque suisse, notamment, c'est des produits qui sont très très bons, très très goûteux, mais forcément un petit peu plus chers. Je pense qu'il y en a aussi pour toutes les bourses dans les fromageries, et c'est ce qui fait que ça, c'est désacralisé, démocratisé, je pense.
Alors, c'est démocratisé, désacralisé à l'intérieur de vos boutiques. Hein. Vous avez mis en place donc des personnes qui conseillent le client, mais on peut aussi commander directement en ligne vos fromages. Vous avez mis en place un site internet. Là, la crise vous a permis de d'évoluer là-dessus.
Voilà, alors on s'est beaucoup appuyé aussi sur les marketplaces. Je ne sais pas si je dois les dire à l'antenne, mais on s'est beaucoup appuyé sur les marketplaces pour justement aller aussi sur cette vente via le canal de l'Internet. Et là aussi, on a le temps. Quand on choisit sur Internet, malgré tout, on a le temps de faire son choix. On n'est pas pris par le vendeur. Et c'est aussi un des maîtres mots que je demande à mes équipes tout à l'heure. Emmanuel parlait des gens qui vendent chez moi et qui sont plutôt sympathiques, et ça me fait très plaisir de l'entendre. Il faut aussi rassurer le client en face de soi et ne pas le faire passer pour un idiot parce qu'il ne connaît pas tel ou tel fromage. Il faut savoir se mettre à la portée des gens. Et ça, je pense que c'est tout l'art du fromager.
Ça pèse quoi ? Et justement, alors, quand on est sur Internet, ça pèse quoi le numérique chez vous ? Pendant cette crise-là, est-ce que vous avez pu faire ce que vous n'auriez peut-être pas pu faire sans la crise ?
Sur le premier confinement, ça a été extrêmement visible. Hein. Il faut le reconnaître que le confinement pur et dur a contraint certainement des personnes à faire leurs courses sur Internet. Le second confinement et le troisième confinement, c'est moins marqué. Mais manifestement, nous étions sur une échelle de vente via Internet et via les marketplaces qui a remonté, on va dire, de plusieurs dizaines de pourcents. Et on est maintenant sur un plateau entre le moment fort du premier confinement et puis actuellement. Et quand ça s'est déconfiné, eh bien on a gardé un certain rythme plutôt intéressant de vente sur Internet.
On le voit là avec tous les produits que vous avez apportés. Vous faites du fromage, mais plein d'autres choses aujourd'hui, Pascal Beyver. Vous faites des yaourts, vous faites de la crème, vous faites du beurre. Quels sont les prochains produits sur lesquels vous travaillez ?
Alors, on s'intéresse effectivement aujourd'hui à un produit qui ne fait pas partie de notre plateau. Et dans les familles de fromages, il y a les pâtes pressées cuites, les pâtes molles à croûte fleurie, les pâtes fraîches, etc. Et il y a un fromage que je ne fabrique pas, qui est plutôt de la famille des bleus. Et on s'intéresse aujourd'hui sur cette famille-là à quelque chose dont je ne peux pas parler à l'antenne parce que ce n'est pas suffisamment avancé. Mais c'est en tractation assez, assez poussée.
Vous êtes aussi lancé et développé à l'étranger, hein, notamment à Londres ou aux États-Unis. On le voit, hein, le fromage français, hein, il est réputé mondialement. Où comptez-vous vous développer là, dans les années à venir ? C'est quoi la suite pour vous au niveau international ?
La suite au niveau international, c'est effectivement partie, je pense, de notre implantation londonienne. Et on s'est aperçu qu'à Londres, finalement, on avait l'écoute du consommateur. Ça, c'est le travail de mon premier fiston qui s'est installé là-bas il y a une dizaine d'années, hein, qui a monté une petite unité sur Londres. Et on fait de la distribution dans cette région. Donc du coup, on s'est dit, faut s'intéresser à l'international. Et c'est vrai que On a développé sur les États-Unis, on a un peu souffert au moment du confinement, il faut le reconnaître, sur les États-Unis, mais on a aussi développé l'Asie, hein, et l'Asie nous donne une très bonne réponse au niveau des fromages notamment, mais aussi le Moyen-Orient qui aujourd'hui nous accompagne bien. Et puis, dans tout cet exotisme, on arrive à même aller sur des îles, que ce soit aux Maldives ou...
Donc vous êtes partout en fait, c'est ce que vous nous dites.
Ou même les Grenadines, alors ça nous fait plaisir quoi.
Vous êtes partout.
Ce qui est impressionnant, c'est que quand vous avez débuté, Elisabeth le rappelait, dans les années 80, rien n'était prévu de tout cela. Vous avez débuté avec une petite boutique dans le centre-ville de Nantes. Quand vous vous retournez là derrière vous, vous dites quoi ? Parce que rien n'était prévu.
Moi, je dis merci à mes parents, parce que c'est mes parents qui ont initié la vente directe dans les années 70, et c'est eux qui ont allumé cette petite flamme. Et moi, j'ai surfé finalement sur cette flamme-là. Mes parents faisaient du beurre, du lait en berlingot et de la crème fraîche, et puis de là, tout s'est décliné. J'ai envie de dire merci à mon papa également, parce que c'est lui qui m'a donné l'occasion de me mettre à mon compte et de me dire, bah, vas-y, si t'en as envie, j'avais 20 ans. Ce qui n'était pas rien. Donc, je trouve sympathique tous ces gestes qu'ils ont eus pour moi. Et le chemin, après, s'est parcouru parce que le premier produit que j'ai fabriqué, c'est de la crème. Donc, de la crème, on se dit, on fait du beurre. Et puis, une fois qu'on a fait de la crème et du beurre, on se dit, pourquoi on ne ferait pas du fromage blanc ? Et puis, une fois qu'on a fait de la crème, du beurre, du fromage blanc, mais pourquoi pas essayer de faire des yaourts ? Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, on se dit, on va commencer à faire du fromage. Et puis, voilà, vous voyez, la mécanique s'est faite comme ça. C'est quand même 40 ans de vie. Hein. Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais c'est passionnant. Et puis,
j'ai été accompagné. Mais il y a peu de petites sociétés agroalimentaires comme vous. Ouais. C'est 500 salariés aujourd'hui à une demi-heure de Nantes.
Ouais, merci. Je voudrais justement dire un petit mot pour les gens qui travaillent chez moi, parce que je suis entouré de très bons collaborateurs. Un petit clin d'œil pour mon épouse, parce que on dit souvent derrière l'homme chercher la femme. Et mon épouse qui a eu confiance et qui m'a accompagné dès les premiers jours. Donc je pense que tout ça, c'est un peu une réussite, si on peut dire. D'équipe, quoi. Bien sûr, il y a un homme devant, il y a un nom, parce que la fromagerie, elle est partie de manière très éponyme. Parce que aujourd'hui, c'est Baillevert. Au départ, c'était Pascal Baillevert. Alors donc, il a fallu élaguer un peu tout ça pour en faire une sorte de marque, hein, maintenant. Mais de tout ça, c'est un vrai travail d'équipe. Et puis, merci à nos consommateurs, parce que quand on a bien travaillé, qu'on a bien produit, qu'on a bien fabriqué, et puis qu'on a fait tout ce travail-là, il faut aussi qu'on ait derrière nous des consommateurs qui nous suivent, qui prennent plaisir à nous accompagner. Et donc, c'est tout cette grande famille qui fait la réussite de
votre entreprise. Et bel hommage à vos parents, on vient de l'entendre, hein, Pascal Baillevert. Alors, chaque jour dans la France bouge, on se pose un instant pour découvrir une marque, un lieu ou un produit qui ont marqué l'histoire et qui font encore aujourd'hui rayonner la France. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire d'un appareil à raclette, mais pas n'importe lequel, celui de la marque Tefal.
Oui, Tefal, c'est notre saga du jour racontée par notre montagnard à nous, Quentin Paillet.
Europe 1, la France bouge, la saga.
En cuisine, nous avons tous fait l'expérience d'une poêle ou d'une casserole qui accroche. Non seulement le repas est raté, mais en plus, la plupart du temps, impossible de rattraper les dégâts. Ou alors, il faut frotter très fort. Mais en 1954, une invention change tout. Celle d'associer le téflon au fond d'une poêle. La marque Tefal est née. Ariane Chauvel, responsable marketing du groupe SEB, à qui appartient Tefal depuis 1968.
À l'origine, il y a un homme, c'est un ingénieur qui s'appelle Marc Grégoire. Et en observant sa femme avec une casserole dont le fond accrochait, il a l'idée révolutionnaire de créer la première poêle aux propriétés anti-adhésives. Donc c'est une poêle qui n'accroche pas et même avec très peu de matière grasse.
Les poêles et les casseroles n'accrochent plus, c'est tout simplement révolutionnaire. Cela fait le succès de Tefal et pas qu'en France. En 1961, Jackie Kennedy sort d'un magasin à New York avec une poêle Tefal à la main. 10 jours plus tard, la demande aux États-Unis est de 1 million de poêles par mois. Tefal ne s'arrête pas là. Une autre invention fait le succès de la marque, l'appareil à raclette. En 1978, fini la demi-meule de fromage qui fond très lentement. Place à un appareil plus convivial et plus simple à utiliser.
Les équipes de Tefal, qui étaient basées en Haute-Savoie, et qui le sont toujours d'ailleurs, et qui connaissaient forcément très bien la raclette, ils ont voulu s'attaquer à ces problèmes. Ils ont révolutionné le marché en créant le premier appareil à raclette avec des coupelles individuelles posées sur une résistance chauffante. Tefal a complètement démocratisé la raclette, qui est devenue beaucoup plus conviviale, puisque chacun mange maintenant sans attendre et à son rythme, beaucoup plus facile grâce au fameux revêtement Tefal qui permet au fromage de glisser délicatement de la coupelle sur la pomme de terre. Avec un nettoyage, bien évidemment, hyper facilité grâce à ce revêtement auquel le fromage n'accroche pas.
La raclette se démocratise. Aujourd'hui, un foyer français sur deux est équipé d'un appareil à raclette et plus d'un tiers d'entre eux est un Tefal. Les ventes se sont accélérées depuis mars 2020. Les Français confinés ont trouvé du réconfort dans la raclette, à tel point que les ventes d'appareils Tefal se sont envolées.
Il s'est vendu sur le marché français 1 300 000 appareils à raclette entre février 2020 et mars 2021. La raclette est dans le top 3 des plats préférés des Français et il faut savoir qu'ils en consomment plus de 30 tonnes par an.
Toutes marques confondues, les ventes d'appareils à raclette en France en 2020 ont augmenté de plus de 300% et en tout, les Français ont ingurgité 34 000 tonnes de fromage à raclette.
C'était beaucoup, la saga hein. Du 34 000 tonnes.
34 000 tonnes, les Français ont.
Ah, vraiment, j'ai que ça à faire en même temps.
Oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de soirées raclette.
C'est Pascal Baillevert qui est le fondateur des fromageries. Baillevert qui est notre grand témoin jusqu'à 14h.
Et vous restez avec nous, vous allez porter maintenant votre casquette de coach si vous le voulez bien, parce que vous allez donner votre avis et peut-être donner des conseils au pitch du jour.
Europe 1.
Il est 13h43.
Et le pitch du jour, ça s'appelle Polskin aujourd'hui.
Oui, ce sont des produits de beauté pour nous, pour une fois, pour les hommes. À découvrir dans un instant. Elle bouge et elle mange, cette France bouge depuis le début de cette émission. On vous le rappelle, on parle fromage aujourd'hui avec Pascal Baillevert, l'un des plus grands fromagers français à la tête des fromageries Baillevert. Et c'est le moment de découvrir nos pépites de demain, justement, devant l'œil attentif de notre témoin du jour et bien évidemment de notre fée Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie.
Et on va encore découvrir des personnes qui osent se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, un projet lancé en août de l'année dernière. Bonjour Emmanuel Bina.
Bonjour.
Vous avez 28 ans, vous venez de Lunéville, près de Nancy. Vous avez fondé avec votre maman Polskin, Skin hein, comme la peau. C'est une marque de cosmétiques pour hommes. Alors comment allez-vous vous différencier sur ce marché? Quelles sont les vertus de vos produits? Eh bien c'est parti, on vous écoute, vous avez une minute.
Eh bien écoutez, vous avez déjà présenté assez bien, je vais essayer de faire mieux. Polskin, c'est une marque que j'ai créée il y a 8 mois avec ma mère. Avec ma mère parce qu'elle est médecin esthétique spécialisée en cosmétologie masculine. Et Polskin, c'est une marque experte et naturelle de soins pour hommes. Il y a donc 8 mois, on a commencé. On a opté pour une usine qui est située à 800 mètres de nos bureaux. Donc ça nous a permis de construire des relations de confiance et privilégiées avec ce partenaire et d'optimiser nos formulations. On travaille uniquement avec des entreprises françaises. Et c'est vraiment en alliant l'expertise de ma mère en cabinet qu'elle a obtenue pendant de longues années et ses connaissances qu'on arrive à formuler des soins qui sont adaptés à la peau de l'homme. Parce que oui, la peau de l'homme, elle est bien différente de celle de la femme. Et on vend exclusivement en ligne, pour l'instant, sans intermédiaire. Et si vous deviez retenir qu'une phrase, pardon, c'est que Polskin, ce sont des soins performants, naturels, vegan, éco-friendly et... pour les hommes.
Et ben voilà, bravo déjà Emmanuel pour ce pitch. Donc pour le moment, il y a un produit, crème hydratante matifiante pour hommes. Il y a deux produits en essai, un gel nettoyant, un soin lavant pour le corps. Et si je ne donne pas le prix, je vais me faire taper dessus. La crème est à 25€ pour 50 ml.
Exactement.
Bravo Emmanuel, vous nous avez dit que c'était vegan et éco-friendly. Est-ce que c'est efficace?
Bah, c'est surtout efficace.
Vous avez
avant
fait des
tout
tests
ça, c'est surtout... Oui, il y a beaucoup de tests qui ont été réalisés. Il faut savoir également que la législation française est très stricte. Donc, on a dû passer toute une batterie de tests. C'est pour ça qu'on a mis un an à lancer ce produit. Et bien sûr que c'est très efficace.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous disiez que vous êtes vendu en ligne, mais vous, votre ambition, et tout le monde ne l'a pas dès le démarrage, c'est d'ouvrir, comme a fait Pascal Baillevert, des points de vente physiques.
Oui, parce que pour nous, c'est important, c'est quand même de la cosmétique, on a besoin de la tester. Notre parfum a été conçu par des parfumeurs de Grasse, donc c'est important de la sentir, et bon, en ligne, c'est un petit peu compliqué. Mais la situation n'est pas très claire encore, donc on y pense beaucoup.
Alors Emmanuel, chaque jour, Nathalie Carré, qui est chargée de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, épluche et analyse chaque dossier attentivement. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Bonjour.
Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses, s'il y en a, de Polskin?
Bah déjà, au-delà des produits, le site est vraiment bien fait et donne envie d'acheter. Donc bravo pour toutes les explications et le blog sur la peau des hommes. Moi, je suis sûre que la plupart d'entre nous, bah, on ignorait tout ça.
Bah, vous intéressez pas à nous, c'est normal.
Si, oh, monsieur, messieurs, s'il vous plaît, lisez ces pages et vous allez comprendre pourquoi on insiste autant pour vous acheter de la crème pour le visage. Vous allez voir, c'est pas pour vous embêter, lisez ces pages. Et puis sur votre site, le ton, le vocabulaire, mais parfaitement adapté aux hommes, donc fonctionnel et concret. Et puis la description description des ingrédients qui est claire et rassurante. Pas de points améliorés, plutôt des suggestions. Il y a quand même plusieurs marques bio made in France dédiées aux hommes. Et quand je compare avec votre marque, je ne suis pas vraiment capable de choisir, bien que je sois une femme. Même argument, même prix, même philosophie. Donc quand vous allez développer votre gamme, peut-être qu'il faut proposer un angle de différenciation. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est les soins spécifiques pour les sportifs, pour les jeunes adultes, pour les urbains, j'en sais rien. Peu importe l'angle, mais il faut que vous trouviez, parce qu'aujourd'hui, bio et écolo, c'est plus suffisant. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Puis peut-être une association avec Abicare qu'on a reçue à la France Bouge, qui a développé un système de diagnostic de peau via un selfie. Ça peut faciliter le bon choix de produit, évidemment, quand votre gamme sera élargie. Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter l'achat au consommateur en l'aidant à choisir vous plutôt qu'un autre.
Pourquoi vous plutôt qu'un autre ?
Alors nous, c'est vraiment l'expertise qu'on propose, c'est que la fondatrice a créé les produits, ce qui n'est souvent pas le cas, et qu'elle accompagne aussi les hommes dans cette routine-là. Ils peuvent poser leurs questions, ils ont le blog, donc c'est l'expertise sur toute la durée, en fait.
Pascal Baillevert, je rappelle que vous êtes à la tête des fromageries Baillevert avec votre œil d'entrepreneur. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, je pense que c'est déjà quelque chose de très novateur et j'ai envie de dire bravo à Emmanuel, parce que aller sur des sentiers nouveaux comme ça, explorer, c'est le propre de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat. Donc je ne peux que la féliciter pour ça. J'ai envie de lui dire de garder confiance en elle, d'être pugnace.
D'être pugnace dans c'est ce important on est entrepreneur.
Oui, il faut être persévérant et pugnace.
Ça a été quoi la chose la plus compliquée pour vous en 40 ans ?
En 40 ans, c'est de croire en ce qu'on fait tout le temps. Et si on garde cette croyance dans son projet d'entreprise, dans ce qu'on fait, je pense qu'on arrive à gagner. Je me dis, il faut faire attention à tout ce qu'on entend des fois autour de soi, surtout faire attention à ceux qui finissent par vous donner l'heure avec votre montre. Il faut écouter, mais il faut aussi savoir être
s'entourer, c'est ça ce que vous
nous dites. Oui, il faut savoir s'entourer des personnes
Mais faire confiance à ses pulsions, c'est ça que vous dites aussi.
Il y en a des milliers, mais après, il faut être persévérant et surtout savoir aller dans ce qui motive l'envie d'entreprendre, motive le produit, parce que là, je trouve que c'est un produit qui est nouveau. Moi qui suis justement de la jante masculine, j'écoute ça avec attention. J'ai 60 ans, je me dis peut-être que je vais en avoir que 50 si j'utilise cette crème tous les jours au bout de quelques mois, je sais pas. Mais enfin, c'est vrai que ça donne, parce que nous les hommes, on n'est peut-être pas des fois très sensible à ce genre de choses, et peut-être qu'il y a des choses à faire. Moi, je dis bravo, parce que c'est quelque chose.
Donc, vous validez.
Je valide, même si je ne peux pas lui vendre un peu de ma crème fraîche pour aller dans ses peaux. Je pense qu'elle va trouver largement son sourcing ailleurs, et je pense que c'est une entreprise qui ne peut que réussir.
Ça s'appelle Polskin. Merci. Si on veut en acheter, on va sur votre site internet.
Oui, www.polskin.com.
Merci à vous, Emmanuel Bina. Merci d'être venu dans La France Bouge. On vous souhaite bonne chance. Donnez-nous de vos nouvelles.
Merci à Nathalie Carré, que l'on retrouvera dès lundi. Si vous voulez comme ça venir présenter votre entreprise, eh bien une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Pascal Baillevert, vous êtes le fondateur des fromageries Baillevert. Vous êtes notre témoin du jour. Vous restez encore avec nous quelques minutes ?
Bien entendu.
Europe 1. Et il est 13h53.
À suivre demain, un emploi. La France Bouge accompagne et soutient les jeunes qui arrivent sur le marché du travail.
Eh oui, on a 200 postes aujourd'hui. Où ça ? La réponse dans un instant. Et oui, la France Bouge avec des emplois chaque mercredi et chaque vendredi à vous proposer, avec notre témoin du jour notamment aujourd'hui, Pascal Baillevert, qui est le fondateur des fromageries Baillevert.
Et oui, parce que nous soutenons et nous accompagnons les jeunes qui arrivent sur le marché du travail en cette période compliquée. Aujourd'hui, 200 postes à pourvoir.
Où ça,
grâce
alors
à vous, Guillaume Autier, bonjour.
Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Meilleur Taux. Meilleur Taux, ça existe depuis 20 ans. C'est la plateforme pour les services financiers en France. Vous avez 2000 salariés. C'est simple, vous êtes basé partout en France. Vous avez des sites à Paris, à Lille, à Reims. Et si vous êtes là en direct dans la France Bouge, c'est parce que vous avez 200 postes à pourvoir. Quel type de poste ?
Alors, on recrute dans tous les métiers de l'entreprise. On recrute d'abord des profils tech. Meilleur Taux, on est une entreprise du French Tech 120, donc on a besoin de développeurs dans toutes les technologies du web d'aujourd'hui, Salesforce, PHP, Java. On recrute des spécialistes du marketing et puis on recrute beaucoup de profils commerciaux aussi, c'est-à-dire les gens qui vont parler à nos clients, qui vont les accompagner dans nos métiers, du crédit, de l'assurance et de l'épargne. Donc on recrute tous les profils de l'entreprise.
Mais ce qui est marrant, c'est que quand vous dites c'est quoi votre candidat idéal, vous dites il faut que ce soit un militant du libre choix.
Ouais, la première qualité pour travailler chez Meurto, c'est d'être motivé, c'est d'adhérer aux missions d'entreprise. Et les missions d'entreprise, c'est en effet le libre choix de nos clients, leur pouvoir d'achat et leur information. On a trois missions qui sont informer, comparer, accompagner. Oui. Et la première qualité, c'est d'adhérer à ça. Si vous êtes un expert de vos métiers, de vos domaines, c'est évidemment tant mieux, c'est très bien. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, on va vous former, on va vous apprendre un métier. Donc tant que vous êtes motivé, vous allez vous éclater chez Meurto.
On va s'éclater en allant travailler chez vous. Comment vous allez faire passer l'entretien de recrutement? Si par exemple, il y a une personne qui a envie de recruter, là, en vous écoutant là, en direct sur Europe 1, ça va se passer en visio, il va falloir se déplacer. Quel est le processus en ce moment dans cette période d'entre-deux, hein? On est à la veille d'un déconfinement là.
On offre la possibilité à ceux qui souhaitent de passer des entretiens en visio. Cela étant, si vous voulez vous rendre sur le site de travail pour aussi vous rendre compte un petit peu des locaux de l'entreprise, et bien c'est très apprécié. Donc, on est souple de ce point de vue.
Vous êtes souple et vous payez bien?
On est évidemment dans le marché et puis on est prêt pour des profils très techniques et bien à mettre le prix. On sait qu'aujourd'hui, il faut bien payer pour recruter. Donc, il n'y a pas de problème. On est très attractif de ce point de vue.
Pascal Bayver, je rappelle que vous êtes le fondateur des fromageries Bayver. On l'entend depuis le début de l'émission. Ça va bien chez vous. Alors, vous recrutez?
Effectivement, on est toujours en recrutement. Hein, et c'est un axe sur lequel on travaille beaucoup. On travaille beaucoup sur la marque employeur parce qu'aujourd'hui, on est obligé avec... effectivement la jeune génération qui rentre sur le marché du travail, mais également ceux qui travaillent déjà, on doit être attractif à tous les niveaux. Alors vous l'avez dit tout de suite, il faut savoir payer le juste prix, il faut aussi savoir accompagner les gens, hein, dans leur travail dans l'entreprise. Il faut aussi savoir leur donner des espaces qui sont aussi accueillants, sympathiques pour le moment des pauses, pour les choses comme ça. Donc on a un ensemble de choses, un ensemble d'outils qu'on doit être toujours à travailler.
Et pour, chez vous, vous formez, j'imagine. Si on a une envie de vendre, par exemple, dans tous vos camions itinérants qu'on trouve sur les marchés, notamment de l'ouest de la France.
Effectivement, donc on accompagne les gens à ce moment de la vente, à ce moment de l'échange avec le client.
Il y a des possibilités d'évolution de carrière où on arrive, on reste...
Il y a des vraies possibilités d'évolution de carrière chez
nous. C'est-à-dire, un exemple ?
C'est ce que je dis souvent. On peut commencer par être, je vais dire, sur une écrémeuse pour commencer un travail de fabrication. Et puis, si on s'intéresse à l'encadrement, à accompagner les gens dans leur métier, eh bien, on peut se retrouver chef d'équipe et puis... pourquoi pas directeur de production.
Donc des évolutions de carrière, il y a du travail chez Meurto, hein, merci à vous Guillaume Autier, mais aussi de l'emploi chez Pascal Bayver, hein, vous êtes le fondateur des fromageries Bayver. C'est la fin de votre émission, merci à vous d'être venu dans La France Bouge, d'avoir été notre témoin du jour, Emmanuel. Nous on va se retrouver lundi, mais pas ici, pas à Paris.
Allez, on repart, on fait nos petites valises ce week-end.
Ah oui,
on
la France bouge, elle bouge.
Bien évidemment, cette fois on va partir en Normandie et on va continuer un petit peu sur cette thématique puisqu'on sera en direct de la ferme des Peupliers, là, l'un des grands noms du yaourt. Et on va aller dans le cadre de cette semaine de l'agriculture sur place.
À lundi, dans un instant, Christophe Ondelat. Ce sera juste après le flash d'info.